Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Charlie Chaplin. Il s'agit d'un de mes cinéastes préférés, sans doute le symbole vraiment de la construction d'Hollywood comme ville du cinéma. Charlie Chaplin, comme beaucoup de gens de sa génération et de la génération un peu avant, vient du milieu du théâtre, donc il a connu les planches avant de se présenter à la caméra. Ses parents venaient du milieu du théâtre également. Et c'est là qu'il a été connu, entre autres, pour jouer un ivrogne. Et son numéro de l'ivrogne réussissait tellement bien que les compagnies d'Hollywood ont décidé de l'engager. Quand ils l'ont engagé, il s'est mis à faire toutes sortes de courts-métrages et très tôt, il a trouvé son personnage. En anglais, c'est The Tramp. On a traduit souvent par Charlot, parfois aussi par le vagabond. On pourrait dire l'itinérant, ce serait bon aussi. Donc, The Tramp qui va être dans la grande majorité de ses films. Ce qui est intéressant, c'est que comme il arrive au moment où Hollywood se bâtit, hein, il permet une espèce de transition qui va se faire dans le cinéma. Parce que l'arrivée d'Hollywood et l'arrivée de Charlie Chaplin, c'est un moment de l'histoire du cinéma où on va quitter ce qui était le court-métrage, même le très court-métrage, si on prend ça au premier film, que ce soit les films des Frères Lumière, les films de Georges Méliès, d'Alice Guy. Ce sont des films assez courts. Et lorsqu'on va arriver à Hollywood, donc toutes les maisons de production qui étaient situées au New Jersey vont déménager à cause du monopole Edison à Hollywood. En arrivant à Hollywood, la technologie fait en sorte qu'on voit arriver le long métrage. Donc là, on commence à raconter vraiment des histoires beaucoup plus longues. Ça va être les débuts de D.W. Griffith. Ça va être les succès aussi de Douglas Fairbanks. Et Griffith et Fairbanks vont s'allier à Charlie Chaplin et à Mary Pickford pour fonder ce qui sera la United Artists. Donc, vraiment une maison de production faite par les artistes, pour les artistes, pour essayer de se faire une place dans l'espèce de combat de titans qui se mène entre les méga maisons de production. On peut penser à MGM, on peut penser à Universal, qui, à ce moment-là, essaye de mettre la main sur Hollywood. Et les plus grandes vedettes de l'époque vont s'unir pour fonder la United Artists. Les courts-métrages de Charlie Chaplin valent vraiment le détour. Ce sont tous de très bons films qui sont à l'image des films de cette époque-là. Il y a d'autres films comiques qui vont être faits avant Charlie Chaplin par quelqu'un comme Max Linder, qui sont un peu dans cette esthétique-là. Il va y avoir beaucoup de grandes figures américaines dans ce genre comique. On peut penser à Laurel et Hardy, à Harold Lloyd. Mais c'est au moment où il va prendre le long métrage comme forme d'expression que là, vraiment, Chaplin va arriver à la fine pointe de son art. Avec des films comme The Kid, The Gold Rush. Et puis, avec ces films-là, il va écrire le scénario, il va jouer le rôle principal, il va composer la musique et réaliser. Donc, vraiment, il maîtrise l'œuvre en entier. Il y a d'autres grands de cette époque-là. Je parlais de Douglas Fairbanks. On peut penser aussi plutôt à Buster Keaton, qui va faire des films magnifiques, également qui va maîtriser le long métrage, mais qui ne développera pas tous les aspects du film de la même façon que Chaplin le fait. Ils sont très rares ceux qui vont jusqu'à composer la musique pour accompagner le film. C'est ce que Chaplin fait. Si il va vivre un moment important de l'histoire, qui est la transition entre le court métrage et le long métrage, il va aussi vivre un autre moment de transition dans l'histoire du cinéma, qui est l'arrivée du parlant. On sait que beaucoup de vedettes du muet ont eu de la difficulté à s'en remettre, ont perdu leur carrière après le parlant. Chaplin va continuer, mais il va être connu pour résister. On peut penser à Modern Times, où on entend la voix du patron au début, mais où il n'y a pas vraiment de dialogue à haute voix, où il garde cette idée de l'intertitre. Et puis, il va garder ses façons de faire assez longtemps. Le film où il va vraiment prendre la parole, c'est The Great Dictator, où il fait une satire d'Adolf Hitler. Et même lorsqu'on regarde ce film-là, il va parler, mais c'est à la toute fin du film. Donc, il ne prend pas tout le film pour parler. C'est vraiment, c'est le geste qui parle pour lui. Et c'est la force aussi de Chaplin, le geste. Il est quelque chose comme un danseur de ballet lorsqu'il arrive à l'écran. Si on regarde comment il descend les marches d'un escalier électrique dans Modern Times, ou une de mes scènes préférées dans The Great Dictator, c'est quand le policier va frapper sur la tête du juif avec une matraque, Chaplin, qui est sonné, va zigzaguer entre la rue et le trottoir. Et ce pas-là, franchement impressionnant. Allez le revoir, ça vaut la peine. Mais progressivement, la parole va prendre de la place dans ses films. Et ses derniers films sont pas mauvais pour ça, loin de là. Moi, un de mes films préférés, c'est Monsieur Verdoux, où il va abandonner le personnage du tramp et il va adopter le personnage d'un noble français tueur en série. Et c'est le seul film où Chaplin joue le méchant. C'est très inhabituel de sa part, mais c'est très réussi. Si vous n'avez pas vu Monsieur Verdoux, allez voir Monsieur Verdoux. Sinon, il y a aussi Les Feux de la Rampe, c'est Limelight en anglais, qui est un film hommage à son art qu'il aime. Et c'est le seul film où on va voir côte à côte jouer ensemble Charlie Chaplin et Buster Keaton. Et le numéro, franchement, c'est un numéro d'anthologie. Allez voir ça. Filmographie magnifique d'un bout à l'autre, City Light, The Circus, il n'y a pas de mauvais film chez lui. À mon goût, Modern Times est sans doute le film parfait. Quand on parle d'un film hollywoodien où vraiment ce qui nous accroche, c'est la trame narrative, c'est l'histoire qui est racontée, chaque scène dans Modern Times est excellente. On est impliqué dans chaque geste. Alors, Charlie Chaplin, c'est un lieu commun de dire que c'est un des grands, mais quand on y retourne, on se rend compte que pour une fois, c'est pas un titre abusif. C'est pas quelque chose qui a été gonflé. Au contraire, on l'a raté. Dans toute sa carrière, Charlie Chaplin n'aura jamais l'Oscar du meilleur acteur, l'Oscar du meilleur réalisateur ou l'Oscar du meilleur film. Il va avoir deux Oscars dans toute sa carrière. L'Oscar qu'on va lui donner à la toute fin de sa vie pour l'ensemble de sa carrière, mais c'est plutôt les Oscars qui essayent de se rattraper d'avoir raté le coup. Et sinon, il va, je pense que c'est pour Gold Rush, il va gagner un Oscar pour meilleur costume. Donc, un truc technique, un peu banal, c'est un peu triste, mais ça montre aussi ce que sont les prix et les académies. Donc Charlie Chaplin, le plus grand d'Hollywood, qu'on le dise et qu'on le confirme dans des livres et des documentaires, ou qu'on passe à côté comme une institution, comme les Academy Awards, ça n'a aucune importance. Il reste le plus grand de la côte ouest.